Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, nous aimons la chanson française. Bistånd klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, s'appelle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Bistånd klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie, tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack.
El ball de la civada, jo us el cantaré. El ball de la civada, jo us el cantaré. El pare, quan la sembrava, feia així, feia així. Se'n dava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada, jo us el cantaré. El ball de la civada, jo us el cantaré. El pare, quan la llaurava, feia així, feia així. Se'n dava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada, jo us el cantaré. El ball de la civada, jo us el cantaré. El pare, quan la segava, feia així, feia així. Se'n dava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada, jo us el cantaré. El ball de la civada, jo us el cantaré. El pare, quan la molia, feia així, feia així. Se'n dava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. El ball de la civada, jo us el cantaré. El ball de la civada, jo us el cantaré. El pare, quan la menjava, feia així, feia així. Se'n dava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem.
Roger Pastoury, bonjour. Nous nous retrouvons pour le deuxième entretien de cette nouvelle série sur le thème culture paysanne. Et vous avez choisi comme thème pour cet entretien le couple rebelle des grands-parents. Je vous donne la parole.
J'expliquerai pourquoi j'ai intitulé ce propos le couple rebelle. Ce sera en fin de notre entretien. Ce que je voudrais souligner tout de suite, c'est que on revient toujours sur son enfance. Et je pense que l'homme de 91 ans que je suis a besoin de ses souvenirs, a besoin de cette enfance, ce que j'appelle ma culture paysanne, parce que il y a à la fois les souvenirs dont j'ai parlé, la mémoire, et il y a aussi beaucoup les siens, ceux en définitive, qui vous ont aimé. Et ça, ce sont des forces essentielles pour se construire, pour avancer en âge et pour supporter tout le reste. J'ai parlé de mon papa et de ma maman dans la dernière émission, comment j'avais été choyé, comment ma maman a su me comprendre lorsque j'ai plus voulu aller au séminaire. Et aujourd'hui, parlant du grand-père et de la grand-mère, c'est une sorte d'enchaînement de tout ce que je voudrais dire, de tout ce que je voudrais exprimer.
Si je repense au nénuphar de l'étang où pêchait mon père, l'étang est d'or, ses yeux sont verts. Si je repense au nénuphar, si je repense au nénuphar, mon père n'est plus, l'étang est noir. Si je repense aux acacias dans la cour bleue de mon école, mon cœur est grand, un pigeon vole. Si je repense aux acacias, si je repense aux acacias, l'école est loin, mon cœur est là. Si je repense aux grands bateaux, bercés en rade du vieux port, la mer est calme, un enfant d'or. Si je repense au grand bateau, si je repense au grand bateau, l'enfant s'est endormi trop tôt. Si je repense au marron chaud que ma mère fourrait dans mes poches, j'entends le bruit de mes galoches. Si je repense au marron chaud, si je repense au marron chaud, où est le chant de mes sabots? Si je repense à ce jardin qui me tenait lieu d'Amérique, de soirs de bal et de musique, si je repense à ce jardin, si je repense à ce jardin, l'herbe se tait, l'arbre dit rien. Si je repense au nénuphar de l'étang où pêchait mon père, l'étang est d'or, ses yeux sont verts. Si je repense au nénuphar, si je repense au nénuphar, j'ai donc mangé la meilleure part.
Le grand-père, on l'appelait le grand-père Bourdet, c'est lui qui était né là, à Ciréjoles. Son père s'appelait d'ailleurs Baptiste Bourdet. C'est le prénom de mon petit-fils, mais on ignorait à ce moment-là que Baptiste Bourdet, c'était le papa de mon grand-père. Et ce grand-père, c'était un personnage très cultivé. C'était un personnage qui avait eu son certificat d'études, mais qui avait une écriture merveilleuse. C'était un magicien de la phrase. Et j'ai encore un cahier là-bas au grenier à Ciréjoles. Et quand je retrouve ce cahier, cette écriture du grand-père, je suis un peu, disons, non pas surpris, mais un peu jaloux de tout cela. Et ce grand-père, je me souviens toujours de cette rédaction qui se trouve sur ce cahier. On lui demandait, vous faites une peine à votre maman, expliquez. Et à un moment de la rédaction, il dit, j'ai vu une larme couler de vos yeux, cette larme est tombée sur mon cœur, elle le brûle en ce moment. Je pense que ça, c'était tout le grand-père. C'était cet homme sensible, cet homme cultivé, cet homme qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Il était à mes côtés lorsque le curé Bernard m'a giflé le jour de ma confirmation, là-bas dans cette église de Gignac, au milieu de tous ces gens qui étaient là, avec le grand-père qui était au fond de la salle. Il n'avait pas voulu venir à l'église, parce que le grand-père, c'était le côté rouge de la famille. Il me parlait toujours de Jaurès, et ce jour-là, où il y avait au repas, à midi, avant d'aller à cette cérémonie, 5 ou 6 curés là-bas, avec l'oncle Bernard, à Cirejol au repas, ils ont décidé le grand-père à venir, mais il se tenait tout à fait au fond de l'église. Et lorsque le curé Bernard, parce que je répondais pas ce qu'il attendait à la question de l'évêque, parce que c'était la tradition, l'évêque vous questionnait sur un problème de catéchisme. J'ai pas répondu ce qu'attendait l'oncle Bernard, l'oncle curé, celui qu'on appelait le pape, et il m'a giflé. Et ça, c'est quelque chose que je porterai toute ma vie, parce que ça fait partie de l'humiliation. Et un incident est arrivé à ce moment-là, quand le grand-père du fond de l'église a vu qu'on giflait son petit-fils, et dans des conditions où on avait envoyé cette gifle avec la brutalité, de la colère de cet oncle qui m'avait inscrit au séminaire, le curé, le grand-père s'est levé du fond de l'église et il voulait venir culbuter l'oncle. S'il y avait eu la télé à ce moment-là, ça aurait été un spectacle extraordinaire. Les gens étaient là, non bourdés, restez tranquilles, c'est eux qui l'ont tenu. Voilà un peu cette violence qui m'a marqué dès mes 12 ans. J'avais 12 ans à ce moment-là, et ce sont des images qui restent en vous, qui vous fabriquent, qui expliquent ce que j'appelle ma culture paysanne. Dans la culture paysanne, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de violence, mais il y a aussi beaucoup de tendresse.
Christ en bois. Bon Dieu, la sale commune. À soir, personne n'a voulu me recevoir pour que je me gîte ou que je me cache dans la paille, à côté de ces vaches. Et c'est pour rien que j'ai tiré le cordon de sonnette de ton curé, ou que j'ai cogné chez tes déviotes, les celles qui berdouillent des patenotes pour aller dans ton paradis. Ce moi pas un quignon de pain rassis à me fourrer en travers de la goule. Il garde pour le jeter à le poule. Et c'est pour ça que j'attends venir demain, au bas de Toué, sur le rabord du chemin, en haut du talus, sous le vent de bise, qu'ébranle les grands bras de ta crouée grise. Oh, qui pince fort, le salaud. Et je sens mon nez qui fond en yeux et tous mes membres qui gardillent, et mon cul gelé sous mes penilles. Mais tu t'en fous, toi, qui fasse rouer. T'as le cul, t'as le cœur, t'as tout en bois. Eh, le Christ, t'entends-tu, mes boyaux, chanter la chanson des moignons qui demandent à picoter quelque chose? Eh, le Christ, t'entends-tu que je te cause et que je te dis que j'ai une fin de voleux? Tellement que si par devant nous deux, il passait quelqu'un sur la route pour un meillon comme pour une croûte, il me semble que je ferais un mauvais coup. Tout ça, c'est bien, mais c'est point tout. Après, ça sera en cour d'assises que je te retrouverai. Et quoi que je dise, les idées que ça donne et les effets que ça produit pour avoir bouffé, les juges, ils voudront rien entendre, car c'est des gars qui sont point tendres pour laisser ce qu'à ma position.
Ils me rateront point, les cochons. Mais tu serais plus cochon que mes juges. Toi qui me vois le ventre creux et sans refuge, tu ferais point une démarche pour moi. T'as le ventre, t'as le cœur, t'as tout en bois. L'autre, le vrai Christ, le bon jeteux de sort, qui était si bon qu'il en est mort, me trouvant gardillant à cette place, il m'aurait dit, couche sur ma paillasse. Et me voyant comme ça, crevé de faim, m'aurait dit, coupe-toi du pain. Il y en a du tout frais dans ma huche, pendant que je vais tirer une cruche de vin nouveau à mon poinçon. T'as droué comme tout le monde au gueuleton, puisque le soleil fait pour tout le monde, venu du grain de blé la moisson blonde et la vendange des sas tortues. Si condamné, il m'avait vu, il aurait dit au juge, mes frères, qu'il y foutent donc la première pierre, est-il à vous que l'a jamais fauté. Mais toi, que les curés ont planté et qui trône chez les gens de justice, t'es rien qu'un mannequin, au service des riches qui te mettent au coin de leurs biens pour faire peur au moyen du chemin que je somme. Et pour ça, que la bise grande te fout à bas, Christ de contrebande, Christ de l'Église, Christ de la louée, qu'à tout de partout, qu'à tout en bois.
Et puis, lorsque j'ai quitté l'école supérieure, je ne supportais pas l'internat. Là aussi, je ne supportais pas les violences de l'internat. Cette nuit, lorsque je suis arrivé, ce jour où je suis arrivé, où on m'a passé au cirage tout nu, vous savez, ce sont des choses que on garde toute sa vie. Je me rappelle qu'un personnage, il s'appelait Sicard. Sicard, il m'a amené au cabinet et il m'a masturbé. Voilà ce que c'était, ce que la violence. Et comme je ne supportais pas tout cela, j'ai écrit à ma maman, je lui ai dit, je veux plus rester à l'école. Si vous venez pas me chercher, je ferai comme Gambetta, je me crèverai un œil. On m'avait dit que Gambetta s'était crevé un œil sous un coup de violence. Et le grand-père, quand j'ai quitté cette école, alors que tout le monde me condamnait, alors que ma maman, c'était pour elle un gros échec, et le grand-père est resté à mes côtés. Il est resté à mes côtés avec sa tendresse. Il m'a dit, je te comprends, Roger, tu as peut-être eu raison de quitter l'école dans ces conditions. Et il y a eu, sans doute, et si mes souvenirs sont réels, il y a eu ce seul tête-à-tête avec le grand-père pour épancher mes sentiments. Le grand-père était là, le grand-père Bourdet. Voilà. Et je parlais tout à l'heure du côté républicain de ce personnage. Je me souviens toujours de ces soirées au coin du feu, à la veillée du coin du feu. Ce grand-père qui était déjà un homme âgé, qui était déjà un vieillard, qui me racontait ses histoires de sa jeunesse, de son enfance, de sa culture, qui crachait dans le feu et qui me disait « la guerre, ça ne devrait pas exister ». Et cet homme, avec sa femme, avait perdu son fils unique qui était mort à Verdun. Et ils avaient perdu leur gendre qui était mon papa et qui était mort à 27 ans. Ce qui a fait de moi un pupille de la nation.
Ma femme, mon amour, un an s'est écoulé depuis ce mauvais jour où j'ai quitter ma terre. Je suis parti soldat, comme on dit maintenant. Je reviendrai te voir, d'abord de temps en temps, puis pour la vie entière. Je ne pourrais venir sans doute avant l'été. Les voyages sont longs quand on les fait à pied. As-tu sarclé la vigne? Ne va pas la laisser manger par les chardons. Le voisin prêtera son cheval aux moissons. Écris-moi quelques lignes. Vers 1913, mon mari, mon amour, tu ne viens pas souvent, sans doute sont trop courts. Les congés qu'on te donne, mais je sais que c'est dur, 50 lieues marchant, pour passer la semaine à travailler au champ. Alors je te pardonne. Les vieux disent qu'ici, cet hiver sera froid. Je ne sens pas la force de couper du bois. J'ai demandé au père, il en a fait assez pour aller en avril. Mais penses-tu vraiment, toi qui es à la ville, que nous aurons la guerre? Août 1914, ma femme, mon amour, en automne au plus tard, je serai de retour pour fêter la victoire. Nous sommes les plus forts, couper le blé sans moi, la vache fait le veau. Attends que je sois là pour le vendre à la foire. Le père se fait vieux, le père est fatigué. Je couperai le bois, prends soin de sa santé. Je vais changer d'adresse. N'écris plus, attends-moi, ma femme, mon amour. En automne, au plus tard, je serai de retour pour fêter la tendresse. Et vers 1915, mon mari, mon amour, le temps était trop long, je suis allé au bout. Dans la vieille charrette, le veau était trop vieux, alors je l'ai vendu. Et j'ai vu le vieux Jacques et je lui ai rendu le reste de nos dettes. Nous n'avons plus un sou, le père ne marche plus. Je me débrouillerai et je saurai de plus en plus être économe. Mais quand tu rentreras diriger ta maison, si nous n'avons plus rien, du moins nous ne devrons plus d'argent à personne. Avril 1916, ma femme, mon amour, tu es trop généreuse et tu voles au secours d'un voleur de misère. Bien plus riche que nous, donne-lui la moitié, rendre ce que l'on doit. Aujourd'hui, c'est jeter l'argent au cimetière. que tout cela pourrait durer longtemps, la guerre se ferait encore pour 2 ans, peut-être 3 ans même. Il faut nous préparer à passer tout ce temps. Tu ne fais rien pour ça, je ne suis pas content. Ça ne fait rien. C'est terminé, cette tranche de vie. Ainsi c'est terminé, sur le papier jauni, cet échange de lettres. J'avais découvert, au détour d'un été, sous les tuiles enfuies d'une maison fanée, au coin d'une fenêtre. Dites-moi donc pourquoi ça s'est fini si tôt. Dites-moi donc pourquoi au village d'en haut, repassant en voiture, je n'ai pas regardé le monument aux morts, de peur d'y retrouver d'un ami jeune encore, comme la signature.
Voilà un peu les souvenirs qui me restent. Et ce grand-père, il a eu un accident, et cet accident, il a été mal soigné. C'est le docteur Musa qui est venu là-bas à Cirejol, je m'en rappelle. Ce docteur était à la fois paysan, alors il quittait ses bêtes, il quittait ses labours pour venir soigner ses malades. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, sans même se laver les mains, il a remis toutes ses peaux en place comme ça. Et bien sûr, le grand-père a beaucoup souffert jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, j'ai entendu le grand-père se plaindre de sa tête. Et le dernier épisode, c'est peut-être sa mort. Parce que, vous savez, les jeunes, nous ne faisons pas de cadeaux. Nous avions, à ce moment-là, un Bernard moteur avec une scie mécanique, et nous étions à Roudette, nous étions là, en train de couper du bois, et le grand-père nous servait, et à un moment donné, le grand-père, il y avait de la faiblesse, ça marchait pas bien, et on le disputait, on lui disait, mais pépé, tu vas faire ton travail ici. On le commandait avec mon frère, et puis le grand-père s'est affaissé, et on s'est rendu compte que, en définitive, il était mourant. Et on a été prévenir les voisins. Les voisins sont venus. Ils l'ont mis sur cette charrette. Il a traversé le visage avec tous ces gens qui étaient là, prosternés, qui voyaient le grand-père Bourdet rentrer chez lui. Mais malade, il devait mourir dans la nuit. Et c'est la grand-mère qui est restée à son chevet jusqu'au bout.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchon, avec à la lèvre un douchon, avec à l'homme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retourne le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant.
Et bien sûr, il y a la grammaire. La grammaire, c'était tout à fait différent. La grammaire, on l'appelait la Bourdette. La Bourdette, c'était un personnage qui n'avait pas de culture. Je crois qu'elle savait même pas écrire. Mais c'était un personnage qui avait que le souci du travail et de l'argent. La grand-mère Bourdet, le travail et l'argent. Elle était très coléreuse. Elle était très coléreuse. Et j'expliquerai d'ailleurs ses coups de colère, ce qu'il en suivait, ce qui s'en suivait de ses coups de colère. Mais pour ce qui me concerne, lorsque j'étais exploitant agricole, je me souviens ce jour où je labourais, mes bœufs se sont échappés parce que sans doute ils ont été piqués par une bête. Et à un moment donné, il y avait l'arrière et les bœufs s'échappant, mon pied s'est trouvé coincé entre l'arrière et un arbre. Et heureusement le joug capoté et les bœufs sont rentrés à la maison. Et moi je suis rentré à la maison quelques minutes après et la grand-mère rentrée de garder ses brebis, qu'est-ce qu'elle a pu me dire, feignant, vaurien, tu feras jamais rien. Voilà, la grand-mère, c'était cela. Je vivais avec ce coup de massue que j'avais reçu, j'aurais pu y laisser ma jambe, mais la grand-mère, c'était le fait que j'avais quitté mon travail. Et ce personnage, il avait cette violence. Je me souviens toujours que une année, nous avions été vendanger à Aynès, c'était dans le Bordelais. C'est la coutume chez nous, ça fait partie aussi de notre histoire. Chaque année, nous allions vendanger. Nous allions là-bas, les voisins. Il y avait un personnage qui nous regroupait tous. Et là-bas, nous allions dans les familles où nous étions nourris, où nous couchions. Et cette année-là, il y avait la Julia qui était la voisine et il y avait la grand-mère. Et souvent, ces deux personnages, disons, se disputaient avec violence. Avec violence, la grand-mère crachait tout son venin. Et la Julia lui disait, oh mais toi, ta fille, avant qu'elle se marie, il y avait des relations amoureuses avec celui qu'elle a choisi comme son mari. Et ça se passait chez moi, tu le dis pas ça. Moi, qui étais 12 ans, 13 ans, je gardais ça, je gardais ces souvenirs. Je disais, quelle histoire, comment ces choses ont pu se produire. Voilà un peu ce que cette grand-mère m'a laissé comme souvenir. Thank you.
les paysans qu'on fait vendange, là les persouets qui pissent le jus. On travaille aux portes des granges à rassarer le vin dans les fûts. Le vin, ça met des moignons qui chantent dans la tête et dans les cerviaux. Mais moi qui ne fais que le boire de lio, je me sens dans les boyaux du ventre comme des guernouilles qui font coin-coin. Je voudrais bien me foutre une soulée de vin. Tout le monde est sous sur mon passage, même monsieur le maire qui vient de marier deux bourgeoisiaux de l'environnage, et même et tout monsieur le curé qui a vu des trous de fouet son calice. M'en v'là des gens qui ont l'air heureux, ils se tiennent la main et le bras entre eux, ils s'éteillent et se rendaient le service de ramasser ce stick à culbuté. Ils s'embrassent de tous les côtés au nom de la fraternité et leurs dégueulis s'aplatissent comme des étoiles le long du chemin. Je voudrais bien me foutre une soulée de vin. Allons les hommes, allons les frères, allons, avancez-moi un verre. Je veux fraterniser avec vous. Je veux oublier toute ma misère en buvant et trinquant des coups avec les gros, avec les gros. Je veux asphyxier les idées rouges et noires qui bougent dans ma caboche de gueux et de fou. Je veux vous voir et vous voir tout en rose et croire que si j'ai mal vu les choses, c'est peut-être parce que j'étais pas sous. Et le soir, couché dans un fossé, en m'accotant à quelque tas de pierres, en cuvant mon vin tranquillement, je me rappellerai peut-être la prière que je disais tous les soirs dans le temps. Et le bon Dieu et toute sa bricole, et la morale au maître d'école, propriété, patrie, honneur et respect au gouvernement, et la longère des boniments dont je me fous pour elle quart d'heure. Je trouverais peut-être qu'on a tort de vouloir se cabrer contre son sort. Que le monde, il peut pas être sans misère. C'est les gros chiens qui mangent les petits. Allons les hommes, allons les frères, allons, avancez-moi un verre. Je sais bien que j'ai pas le drué au pain, laissez-moi le drué à la chimère douce des soulées de vin.
Mais par contre, elle avait en définitive un fond de tendresse, cette personne. Un fond de tendresse. Lorsque ma maman, que j'ai soignée pendant 6 ans, est morte de son cancer, je l'avais pas dit à la grand-mère. J'avais caché ça. Je portais tout seul cette souffrance. C'était terrible parce que le docteur m'avait prévenu et chaque fois qu'il y avait un sourire chez la maman, je sentais, j'étais encore plus malheureux parce que elle avait confiance et je savais que cette confiance ne pouvait plus exister. Et la grand-mère, sentant qu'il y avait quelque chose, sa fille qui était là, toujours souffrir, elle a pris, un matin, elle a été à Sougac voir le docteur. Il y avait 15 kilomètres à faire. Elle a fait les 15 kilomètres à pied, aller, et les 15 kilomètres retour. Et elle est venue me rejoindre. Je gardais les brebis à ce moment-là. Et là, elle a pleuré. Nous avons pleuré tous les deux. Parce que le docteur lui avait dit que sa fille avait un cancer et qu'elle allait mourir. Voilà un peu cette femme qui avait aussi ses sentiments.
Il me couvait sous son bras ferme quand les animaux de la ferme singeaient des contes dans mes yeux, l'ogre, le loup et Barbe Bleue. Mais son aile s'est alourdie. On dit que c'est la maladie. Et le papier à cigarette, tel un solo de clarinette, dansait sous ses doigts scintillants comme les oiseaux du printemps. voilà que sa main s'engourdit. On dit que c'est la maladie. Il savait déjouer les pièges de l'eau, du feu et de la neige, ouvrir le livre de la vie à la page de mes envies. Il dort sur l'encyclopédie. On dit que c'est la maladie. Faisait d'un ruisseau la Garonne, et d'une perle une couronne, une princesse d'une femme, et d'une étincelle une flamme. Et son regard s'est refroidi. On dit que c'est la maladie. Il croisait une injustice, la dénonçait à la palice. Verdict au bistrot des amis, sans appel, mille ans d'utopie. Il ne joue plus la comédie. On dit que c'est la maladie. Il chassait comme Don Quichotte les margoulins à coups de bottes, avec l'énergie de l'espoir, n'aurait jamais voulu s'asseoir. Le vent a couché vers midi. On dit que c'est la maladie. Alors, l'espérance recule, ça fait le bonheur des pendules, sorcières, charlatans, gourous, perlimpinpin et soubirou. Et des marchands de paradis, elle a gagné la maladie. T'en fais pas, je chante à tue-tête. Je suis debout, je fais la fête. J'arpège dans toutes les gammes, et d'un mot je fais une flamme. Et d'une flamme un incendie. Je te ressemble à ce qu'on dit.
Lorsque je parle du grand-père qui était de temps en temps un peu éméché, il aimait bien boire, puis il allait chez les voisins et tuait le cochon chez les voisins, et puis quand il revenait avec sa bouteille d'eau-de-vie, et il revenait souvent plus ou moins éméché, et la grand-mère le caressait, cet homme. Je le voyais faire, elle lui enlevait ses chaussures, elle le caressait, elle le mettait au lit, parce que il était éméché. La tendresse, comme lorsqu'il est mort, elle a passé la nuit à son chevet. Voyez, il y a des choses où la violence s'associe à la tendresse, et où il faut pas juger comme ça les personnages, il faut comprendre au fond de même ce qui se passe, ce qui peut s'expliquer. Et je me souviendrai toujours que le 12 mars 1943, lorsque je suis venu ici à Lyon, lorsque on m'a envoyé ici pour constituer les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, cette grand-mère qui m'avait, tout au cours de ces années, violenté, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, et cette nuit-là, j'avais pas dit à la grand-mère. J'avais dit, je pars, mais je savais pas où j'allais d'ailleurs. Et elle a senti que j'allais partir et qu'un événement se passait. Et cette nuit-là, la grand-mère, c'est la première fois que la grand-mère m'a embrassé. On ne s'embrassait pas chez nous. Cette fois, la grand-mère m'a embrassé et elle m'aurait donné tout son garde-manger. Elle m'aurait donné tout son garde-manger. Elle qui était si avare, si avare, et « Mais Roger, tu penses ci, tu prends ceci, tu prends cela. » Et elle m'a embrassé. Je garde un souvenir extraordinaire, extraordinaire de cette grand-mère, de cette bise que j'ai reçue. Ça m'a beaucoup aidé ici, lorsque je suis arrivé à Lyon, parce que je laissais quelque chose d'affectif, parce que je laissais la grand-mère toute seule. Il a fallu qu'elle vende les bœufs, qu'elle liquide la volaille, là-bas les cochons, tout ça, puisqu'elle se retrouvait toute seule. Mon frère était prisonnier, il est revenu d'Allemagne que 5-6 mois après, 4 mois après, et la grand-mère, c'était ce personnage qui associait cette tendresse et, disons, ce réalisme.
J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers et de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Irai-je avec eux, mamie, garderez-vous les enfants?
Allez, allez-y, car c'est poli d'être enchaîné plus longtemps.
La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Irai-je avec eux, mamie, garderez-vous les enfants?
Allez-y, car c'est poli d'être enchaîné plus longtemps.
Nous ferons tous de la guerre, ces enfants sur vos genoux. Donnez-leur des idées claires pour qu'ils soient plus forts que nous. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Nous ferons tous de la guerre, ces enfants sur vos genoux. Donnez-leur des idées claires pour qu'ils soient plus forts que nous.
Nous ferons tous de la guerre, vous prendrez votre fusil. Et moi je tiendrai la terre et je prendrai les outils.
La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson.
Nous ferons tous de la guerre, vous prendrez votre fusil. Et moi je tiendrai la terre et je prendrai les outils.
Si on a fait la cartouche qui doit me toucher un jour, les derniers mots de ma bouche seront tous des mots d'amour. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Si on a fait la cartouche qui doit me toucher un jour, les derniers mots de ma bouche seront tous des mots d'amour.
Quand une journée s'achève, des feux s'allument partout. Le blé nouveau qui s'élève, je l'ai sémé avec vous.
La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson.
Quand une journée s'achève, des feux s'allument partout. Le blé nouveau qui se lève, je l'ai sémé avec vous.
J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans.
La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson.
J'étais le cadet de la famille, et pendant que j'étais ici à Lyon, elle avait décidé, il y avait une voisine que j'avais connue, mais la grand-mère m'avait pratiquement fiancé, parce que c'était à Reyrevigne, elle était directrice d'école, lui, il était propriétaire, disait, mon Roger, le cadet, ça sera une bonne place. Et quand je suis arrivé là-bas, à la Libération, 18 mois après, où j'étais resté sans nouvelles et tout, j'arrive là-bas, et la grand-mère m'a dit, t'as un repas, c'était pratiquement mon repas de fiançailles, vous voyez, des choses, des épisodes. Et lorsque je me suis marié le 28 décembre, j'étais à l'armée à ce moment-là, et c'est ma femme qui a fait le premier voyage là-bas, à Cirejol. Et quand elle arrive à la gare de Gignac, vous voyez comment on est reçu. Elle avait, c'était en 1944, au mois de janvier 45, et elle descend du train, et il y a Madame Louradour, mon ancienne institutrice. Ah, Madame Pestouri, Madame Pestouri, ah, j'ai vu l'ancien fiancé de votre mari tout à l'heure. Voilà, elle, voilà comment elle, elle se trouvait de plein pied là-bas, avec toutes ces histoires vécues. Et lorsqu'elle est arrivée à la maison, la grand-mère Bourdet lui a dit, c'est pas vous qu'on attendait dans cette maison. Voilà l'accueil qui a été réservé à ma femme. Mais après, la grand-mère a dit, il faut que je voie ce qu'il y a au fond d'elle-même. Et elle lui a fait connaître toute la famille. Tous les jours, c'était des kilomètres et des kilomètres à faire pour voir les uns, les autres, au poste, tout ça. Et elle m'a dit après tout, c'est pas n'importe qui ta femme. Elle marche bien et ma foi, j'ai de l'estime pour elle. Voilà. Voilà ce que c'était. La grand-mère avait ce personnage, elle était très bavarde. Elle était très bavarde. Elle est venue ici une fois, à Lyon. Je l'avais invitée, elle a passé 8 jours dans cette maison. J'avais été la chercher là-bas, à la gare de Perrache, et dans le car qui nous ramenait, elle est très bavarde, elle interpellait les gens. Alors, à Lyon, vous savez, la froideur des Lyonnais. Il y a un homme qui dit, mais madame, je vous dis rien, je vous parle pas. Et la grand-mère est venue vers moi, elle me dit, c'est une malade ça, il faudra l'amener chez nous, voyez. Et quand elle est venue ici pendant 8 jours, elle connaissait tout l'entourage, toute la maison. C'était ça, la grand-mère. Mais elle avait ses coups de tête, elle était boudeuse. Et lorsque il y avait, son mari, lorsqu'il y avait des disputes, sur un coup de tête, c'était ça, elle partait. C'était le lundi, c'était le mardi, elle partait. Et elle allait au Causse, elle allait chez son frère. Et elle restait là-bas. Et le grand-père, le dimanche, il attendait toujours le dimanche, il allait chercher sa femme là-bas. Il allait chercher sa femme, il revenait d'ailleurs plus ou moins méché, et il revenait avec le charaban, l'âne à ce moment-là, et il passait le village, et les gens disaient, ah, c'est reparti. Vous voyez, c'était un vrai roman, c'était une vraie histoire. Mais la grand-mère, c'était ce personnage-là, je pense que il fallait en parler. Il fallait dire que c'est des choses qui vous marquent, parce que à travers tous les détails dont j'ai parlé, à travers tous ces personnages, ce grand-père, cette grand-mère ont contribué quand même à me fabriquer. Et en définitive, ils m'ont donné ce que j'appellerais une forme de tendresse. J'ai vu un film la semaine dernière où il était dit mourir d'amour. Je pense que on est capable de mourir d'amour. Et je pense que lorsque j'ai été condamné à mort, lorsque j'ai été condamné aux travaux forcés, ce terme de mourir d'amour, avec ce que j'avais reçu, avec cette culture qui était la mienne, avec ces projets qui étaient le mien, avec ces choix que j'avais faits, avec cet engagement, j'aurais pu mourir d'amour. J'aurais, bien sûr, ça aurait été dans la résistance. J'aurais pas crier vive la France, ni vive la République, j'aurais simplement dit maman, maman, maman. Mourir d'amour, c'était cela aussi. La raison en était particulière, mais on est capable de ça, on a besoin de ça, parce que ça fait partie de votre culture, et c'est comme ça que j'ai pu franchir toutes les étapes de la vie, toutes les morsures de la vie, et que à 91 ans, j'ai toujours confiance. Merci.
Ainsi se termine cette deuxième émission d'une nouvelle série avec Roger Pestouri sur le thème « Une culture paysanne ». Au fil de cette émission, vous avez pu entendre Roger Pestouri évoquer la vie, le travail et les mœurs paysannes dans la première moitié du XXe siècle qu'il a traversé dans sa jeunesse. Cette deuxième émission était consacrée plus particulièrement au sujet, le couple rebelle, il s'agit du grand-père et de la grand-mère maternelle. Vous avez pu entendre successivement les illustrations musicales suivantes, la danse de l'avoine, traditionnelle, interprétée par Juan Manuel Serra, puis les nénuphars de Martine Méry pour les paroles, Jean Arnulf pour la musique, qui interprétait la chanson. Et puis, encadré par des extraits du Quatuor pour piano et cordes en sol mineur numéro 1, opus 25 de Johannes Brahms, l'Allegro, interprété par Pentier, Masquier et Pidou. Le Christ en bois de Gaston Couté, qui était dit par Yves Degnaud. Ensuite, c'est Maxime Le Forestier qui interprétait sa composition « Des lettres », puis Georges Brassens, sa composition « Pauvre Martin ». Et puis, à nouveau, Gaston Couté était chanté par Gérard Pierron sur sa musique « Après Vendange ». Et vous avez entendu, sur les paroles et musiques de Bernard Joyet, la chanson « La maladie ». Et enfin, c'était Gilles Servat qui interprétait sa composition « La Blanche Hermine », cette émission se terminant par un autre extrait du Quatuor pour piano et cordes en sol mineur numéro 1, opus 25 de Johannes Brahms, un autre extrait de l'Allegro par Pentier, Masquier et Pidou. Nous remercions Roger Pestouri d'avoir bien voulu accorder cet entretien à Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci, à l'émission Bistantlac. Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en 20 mètres de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque. Thank you.
chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, ses pistons clament. C'est pas de la rengaine, un gavelise passant, pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, ses pistons clament. Le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se raidissent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais on les claque. On se bise.